Pensée écrite.
Pensée écrite.
Vous désirez améliorer votre connaissance,
découvrir la vie et les cultures des autres?
Suivez l'émission Pensée écrite.
Pensée écrite.
Chaque page qui vous entoure renforce les tissus des connaissances dans votre esprit
et vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure.
Pensée écrite.
À suivre sur Radio Maria.
Fréquence 89.9.
Animateur
Bob Kilongo.
Bienvenue parmi nous et merci de cette confiance chaque mercredi d'être à l'écoute de la fréquence maternelle, beaucoup plus, pour nous suivre, pour vous proposer différentes émissions, différents numéros sur les livres. Et là, aujourd'hui, nous allons encore retrouver cette figure, Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo Tipo. Ce n'est pas quelqu'un à vous présenter encore une fois. Il était avec nous en direct pour nous parler de son ouvrage. Monsieur Mayoyo, qui n'habite pas Kinshasa, oui, c'est un natif de la République démocratique du Congo, présentement à l'étranger. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage « L'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa ». La particularité de cette émission, Pensée écrite du jour, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un confrère, c'est bien Joël Diawa, journaliste de la chaîne Journal Télévisé des Droits Humains. Joël, bonjour.
Bonjour Bob Kilongo et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Maria. Ça, c'est vraiment un plaisir de nous retrouver ici pour parler, comme vous l'avez tantôt dit, de la culture congolaise, de la culture africaine. Et pour cette culture, nous allons parler d'un contenu très capital. C'est le contenu qui parle... sans pour autant présenter déjà le contenu de l'émission, mais je vous dis que le contenu est très alléchant.
Très bien. Je pense que Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo Tipo est avec nous en ligne. Bonjour Monsieur Mayoyo.
Bonjour Bob, bonjour Joël.
Bonjour Monsieur Mayoyo.
Très bien. Comme je venais de le dire, l'autre fois vous étiez en direct avec nous, on a eu le temps de vous connaître, on vous a présenté. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse mettre les pieds dans l'étrier, mettre les pieds dans les plats pour commencer directement ces numéros. Nous restons dans votre ouvrage « L'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo, au Kinshasa ». Je pense que je vais laisser la place à Joël pour la toute première question. Mais moi, ce n'est pas une question, comme d'habitude, une pique provocatrice. Monsieur Mayoyo, vous luttez trop, l'autre fois on a parlé avec vous, vous luttez trop pour une démocratie purement congolaise, mais cette lutte se passe à l'extérieur du pays. Comment vous justifiez cela?
Je pense que quand on va entrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre exactement le problème que nous avons, nous, en Afrique, avec le mot démocratie. Nous avons été à l'école, et à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Que la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Partout en Afrique, c'est ce que nous avons appris. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si ce qu'on nous avait appris était vrai ou faux? La démocratie n'est pas née seulement en Grèce. La démocratie est née dans plusieurs parties du monde, y compris en Afrique, avant la grande rencontre des civilisations, c'est-à-dire avant que les Européens ne débarque en Afrique. Nous avions dans nos royaumes, dans nos empires, certains États qui étaient gérés de manière démocratique. Mais comme on nous a lavé le cerveau à l'école, comme quoi la démocratie était née à Athènes, et quand nous envisageons un processus de démocratisation, nous pensons directement à ce que les Européens ou les Occidentaux font. Ce que les Occidentaux font, c'est une voie parmi possible et imaginable de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est une chose, un idéal universel, mais les voies pour atteindre cet idéal universel sont multiples. Déjà en Occident même, la démocratie belge n'est pas semblable à la démocratie française. La démocratie française n'est pas semblable à la démocratie américaine. La démocratie américaine n'est pas semblable à la démocratie au Royaume-Uni. Donc, chaque pays trace sa voie pour atteindre cet idéal qui est universel. Mais chez nous, en Afrique, nous ne faisons pas cet effort de tracer notre propre voie. Dès que nous entendons le mot démocratie, directement, nous commençons à singer ce que les Occidentaux ont fait. Et je pense qu'ici, si en 1960, au moment de l'accession à l'indépendance, nous avions singé les Occidentaux, en 1990, quand le président François Mitterrand prononce son discours, il prend la précaution de nous dire « faites attention ». Parce qu'il savait très bien, nous connaissant, que nous allions commettre la même erreur qu'en 1960. Alors il a dit « voilà ce que nous faisons, nous, quand nous parlons de démocratie ». Mais vous êtes libre, en tant que peuple souverain, de tracer votre propre voie à votre propre rythme.
Très bien.
C'est pour cela que donc il y a nécessité d'avoir une démocratie endogène qui est donc construite à partir des éléments que nous avons, à partir de nos réalités.
Voilà, je comprends déjà, vous attrapez vous êtes en train de mordre déjà la maison du sujet, mais allons progressivement. Je vais laisser la parole à Joël pour entamer la première question, mais nous rappelons, c'est un ouvrage des 11 chapitres divisé en 3 parties, voilà. Donc, première partie avec 5 chapitres, et puis les restes de parties. Troisième partie, je vois, il y a au moins 3 chapitres, et puis la deuxième partie qui a 4 chapitres. Je pense que je suis dans les bons. Alors, nous allons prendre quelques questions avec Joël, tout en signifiant aux auditeurs, c'est un livre volumineux qui, avec les nombres de minutes accordées aux médias, ça sera difficile de tout finir. Mais dis-moi, nous allons prendre l'essentiel pour faire comprendre à nos auditeurs et puis internautes c'est quoi cet ouvrage, l'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa. Cher Joël.
Monsieur Mayoyo, l'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa. Nous avons eu le temps de parcourir cet ouvrage, un ouvrage très alléchant au regard de son contenu. Dans votre ouvrage, vous estimez que la démocratie telle que nous la pratiquons ici en Afrique de manière générale, c'est une démocratie qui a été copiée à l'Occident. Par démocratie à l'Occident, on peut s'imaginer déjà qu'il y a le système des multipartismes, il y a le système des élections à suffrage direct. Mais vous, par contre, vous estimez que cette démocratie à l'occidentale n'est pas adaptée aux réalités africaines, n'est pas adaptée aux us et coutumes africaines. Comment justifiez-vous ce que vous soutenez comme thèse?
Voilà, je pense que je vous expliquais tout à l'heure que nous avons un sérieux problème avec le mot démocratie. Quand vous demandez à n'importe quel Africain de vous définir le mot démocratie, il vous dira la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple.
Exactement.
Voilà. Mais cette définition-là ne permet pas de savoir exactement qu'est-ce que c'est que la démocratie. Cette définition ne permet pas de savoir quelle est la différence majeure entre la démocratie et la dictature. Pour bien connaître ce qu'est la démocratie, il faut se poser une autre question. Qu'est-ce qui est à l'origine de la démocratie? À l'origine de la démocratie se trouve une simple observation. Quand quelqu'un dispose d'une parcelle de pouvoir, cette personne a tendance à en abuser. Maintenant, posons-nous la question de savoir qui avait fait cette observation. Cette observation avait été faite partout au monde de manière tout à fait indépendante. Les Africains ont fait cette observation quand ils n'étaient même pas en contact avec les Européens. Les Européens ont fait cette observation. Maintenant, après avoir observé que quand quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il a tendance à en abuser, et en Europe, et en Afrique, et partout ailleurs au monde, les gens se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand quelqu'un a le pouvoir, il n'ait pas à en abuser? Alors, en Europe, pendant le siècle des Lumières, il y a des érudits, des savants tels que Montesquieu qui a formulé cette remarque. Pour que personne ne puisse abuser du pouvoir, je le cite, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Chez nous, on n'a pas formulé cela exactement de la même manière.
Mais raison
Mais
pour
chez nous,
laquelle on
qu'est-ce
parle
qu'on a
d'ailleurs
fait?
de la séparation des pouvoirs. Ça existe également,
Exact,
chez nous, la
exact,
séparation des pouvoirs.
Exact. Non, la séparation de pouvoir dans les démocraties, les systèmes démocratiques que nous importons de l'Occident, la séparation de pouvoir n'existe pas. Nous copions aveuglement, c'est-à-dire vous avez un parlement, vous avez un exécutif, vous avez un pouvoir judiciaire. Mais ce n'est pas parce que vous avez ces trois pouvoirs que donc il y aura forcément séparation de pouvoir. Parce que ces trois pouvoirs, souvenez-vous, pendant toute la dictature du président Mobutu, nous les avions. Est-ce qu'il y avait séparation de pouvoir? Non. Le président Mobutu avait le contrôle sur tous les autres pouvoirs, et le législatif et le judiciaire. Depuis que nous avons mis en place ce que nous appelons démocratie et qui ne sont pas des démocraties, vous verrez que chaque président africain agit exactement comme les dictateurs que nous avions avant. Le président a le contrôle et de l'Assemblée nationale et du Sénat et de l'appareil judiciaire. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'y aura aucun contre-pouvoir pour le stopper. Alors je disais ceci, chez nous, le monarque était toujours entouré par un conseil des notables. Le rôle du conseil des notables, c'était de conseiller le monarque et c'était de contrôler le monarque, et ce contrôle allait jusqu'à l'éviction du monarque. Dans les structures actuelles, il est impossible de trouver un contre-pouvoir en Afrique qui puisse stopper le président de la République, même quand le président de la République, qui, en devenant président de la République, a prêté serment, et que lors de ce serment, il a juré solennellement devant Dieu et la nation de respecter et de défendre la Constitution. Nous voyons très bien que donc les changements intempestifs de Constitution sont devenus un nouveau fléau de la gouvernance en Afrique. Donc, il n'y a rien dans les démocraties que nous copions en Occident qui peut stopper un président de la République si ce président de la République a des ambitions, non pas pour l'État, mais pour sa propre personne. Voilà donc ce que je voulais dire. Nous n'avons partout en Afrique, partout, presque partout, je dis bien presque partout. D'ailleurs, quand vous comptez les démocraties en Afrique, les doigts d'une seule main suffisent à les compter. Partout ailleurs, c'est ce que nous appelons des démocraties, c'est-à-dire des pouvoirs qui présentent certains aspects de la démocratie que nous copions en Occident, mais qui, dans le fait, fonctionnent exactement comme les dictatures que nous avions hier. Voilà la différence que je voulais apporter.
Monsieur Mayoyo, quand vous parlez justement de ce mimétisme de l'élite africaine, par rapport à la démocratie, on a eu à tout copier sans pour autant sélectionner. Et cela est dû quand même à ce que vous qualifiez aussi de la colonisation des cerveaux, et cela a créé des confusions. De quoi s'agit-il très exactement?
Je vous ai déjà expliqué comment nous, Africains, nous avons appris ce que c'est que la démocratie. C'est à travers l'école, à travers le système éducatif. Le système éducatif en Afrique a un sérieux problème. Ce système éducatif avait été mis en place par les colonisateurs. Les colonisateurs partis, ce système n'a pratiquement pas changé. Vous verrez que dans presque tout le pays africain, les structures sont restées identiques à celles de la période coloniale. Dans la plupart des cas, les composantes de la culture nationale n'y ont pas leur place. Donc, l'éducation en Afrique n'est pas un véritable instrument d'affirmation d'identité culturelle, ni un levier d'un développement endogène qui puiserait sa source dans les réalités nationales et mobiliserait chacun pour le bien-être de tous. C'est ça le drame que nous avons. Puisqu'on nous a appris que voilà, la démocratie, ça marche comme cela, eh bien, dès que nous entendons parler de démocratie, nous commençons à créer des partis politiques. Nous ne nous posons même pas la question de savoir si les partis politiques, ces choses que nous créons et que nous appelons partis politiques, ça répond vraiment à la définition de partis politiques. Je vais vous donner un exemple. Puisque nous imitons les Occidentaux, est-ce que vous pouvez me citer un seul pays occidental où il y a 400 partis politiques, 900 partis politiques? Ça n'existe pas. Alors, comment voulez-vous que nous, au Congo, nous ayons 400, 900 partis politiques? Et puis, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est avant tout Et ça, il faut le savoir. C'est avant tout une prise de position. On prend position par rapport à quoi? À deux choses. La première, ce sont les conflits majeurs que vous connaissez dans votre pays. La deuxième, ce sont les aspirations majeures que vous connaissez dans votre pays. Et quand vous avez pris position, la position que vous avez prise devient ce qu'on appelle l'idéologie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons nos conflits, nous abandonnons nos aspirations majeures, nous allons importer des idéologies en Occident. Nous nous disons, voilà, je suis libéral, je suis socialiste, je suis ceci, je suis cela. Et il n'y a pas longtemps, même là, au Congo d'en face, nous avions même des marxistes-léninistes, des gens qui perdaient du temps, de l'argent à parler du marxisme-léninisme. Et aussitôt que le bloc soviétique implose, il n'y a plus personne pour parler de marxiste-léniniste. Alors, vous étiez marxiste-léniniste, pourquoi? Pour régler quel problème que vous avez dans votre pays? En fait, nous importons ces idéologies-là parce que nous nous disons, nous nous situons dans l'idéologie coloniale. Les colonisateurs sont arrivés, ils ont dit, voilà, vous êtes des enfants, vous êtes des sauvages, nous allons vous civiliser, nous allons vous conduire à l'âge adulte. Alors, quand quelqu'un se dit libéral en Afrique, il veut tout simplement dire que donc, il sait se conduire comme un Européen. Quand quelqu'un se dit socialiste, il veut dire tout simplement cela, que j'essaie d'imiter l'homme blanc. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que ces idéologies n'ont rien à voir avec tout ce que nous avons comme conflit majeur. Elles n'ont rien à voir avec tout ce que nous avons comme aspiration majeure. Ça, c'est le premier problème.
Raison
Nous
pour
créons des
laquelle,
partis politiques.
parlant de ce premier problème,
Oui.
Dans votre ouvrage, vous avez cité une phrase de l'ex-président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba. Je cite: L'Afrique
Oui.
périclite non seulement à cause de la pauvreté, mais parce que les mentalités ont été perturbées, parce que nous ne retrouvons plus nos racines. Estimez-vous que cette démocratie que nous avons importée, c'est ce qui est à la base de c'est ce qui contribue d'ailleurs à l'appauvrissement du continent, à ce que nous vivons actuellement dans notre continent.
Bien sûr, le président Pascal Lissouba a totalement raison. Nos mentalités ont été perturbées par l'éducation que nous avons reçue. On nous a lavé le cerveau pour ne pas voir quelque chose de positif dans nos cultures. On nous a lavé le cerveau pour ne pas voir quelque chose de positif dans nos ethnies. C'est pour cela que quand nous les copions, en fait, nous construisons la démocratie sur du sable. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur à se dire libéral. Il n'y a aucune valeur à se dire socialiste. Aucune. Et d'ailleurs, vous verrez très bien en Afrique, puisque les gens ne croient pas en cela, qu'est-ce qui arrive? Quand vous créez un parti politique, quels sont vos premiers adhérents? Vos premiers adhérents, vous allez les trouver dans votre ethnie, vous allez les trouver dans votre région. Alors, si vous trouvez vos premiers adhérents dans votre ethnie et dans votre région, vous importez l'idéologie pour quoi? Prenons n'importe quel parti politique congolais. Disons, c'est un parti politique qui se dit libéral. Vous pensez vraiment que le monsieur ou la dame qui a créé ce parti politique, quand il va changer le nom ou l'idéologie, il dit aujourd'hui je ne suis pas libéral, je suis marxiste-léniniste, je suis socialiste. Vous pensez que les gens de son ethnie vont le quitter? Vous pensez que les gens de sa région ne vont pas le suivre? Donc, nous importons des choses qui ne valent rien. Et c'est pour cela que cette démocratie-là, qui est construite sur du sable, sur quelque chose qui ne vaut absolument rien, cette démocratie ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Autre chose, quand vous avez créé votre parti politique, comment est-ce que vous vous conduisez au sein de votre parti politique? Vous vous conduisez exactement comme si vous étiez le propriétaire de ce parti politique-là. Il n'y a pas de démocratie à l'intérieur du parti politique. Vous êtes les seuls à pouvoir être candidat à l'élection présidentielle au nom de votre parti. Le parti politique ne fonctionne pas comme ça en Europe. Vous voyez en Occident. Vous voyez donc la différence entre ce que nous appelons parti politique en Afrique et parti politique en Occident. En Occident, il y a des valeurs. Ils ont travaillé sur ce qui les opposait. Mais chez nous, nous travaillons sur quoi? Sur rien. Comme cela, dans le vide. Ces idéologies restent suspendues en l'air, personne n'y croit, à commencer par ceux qui les importent. Alors, comment voulez-vous que la démocratie fonctionne? si déjà l'idéologie ne vaut absolument rien, ça ne veut rien dire aux Africains, et si en plus de cela, au sein de votre parti politique, il n'y a pas de démocratie interne, comment voulez-vous construire la démocratie à l'échelle d'une nation?
Et justement, voilà. avant de passer la parole à Bob...
Là, le problème que nous pose déjà, avant que nous appelons parti politique.
Monsieur Mayoyo, avant de repasser la parole à Bob, j'avais une dernière préoccupation. Dans votre ouvrage, il y a un extrait qui a retenu mon attention. Vous avez dit ceci, les élites africaines ne sont pas parvenues à mesure de porter un jugement lucide sur les réalités de leur société et que dans la construction de la démocratie, la redevance pour le modèle de l'ex-colonisateur l'emporte sur le souci de conception et de l'explication. Comment se départir alors de ce modèle que vous décriez tant, ce modèle de l'ex-colonisateur?
D'abord, je tiens à vous dire ceci. Le processus de démocratisation avait échoué en 1960. Depuis 1990, ce processus est un échec, non seulement au niveau de notre pays, mais dans la presque totalité des États africains. Alors, partout au monde, devant l'échec, qu'est-ce qu'on fait? Devant un échec, cela impose deux questions à l'esprit humain. Pourquoi nous échouons? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas échouer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Vous pouvez aller dans toute l'Afrique. Alors que nous échouons, ces deux questions fondamentales ne sont posées nulle part. Nous devons commencer par nous poser ces questions-là. Et quand on commence à se poser ces questions-là, on va avoir des éléments de réponse qui vont nous permettre de savoir ce que nous devons faire. Moi, j'ai passé 3 années de ma vie à faire de la recherche dans les bibliothèques à Bruxelles, de 1996 à 1999. J'ai compris que déjà, dans les années 1960, il y a des savants qui ont écrit pour expliquer clairement pourquoi nous avions échoué en 1960. Ils disent, nous ne devons pas considérer la démocratie comme une bouteille de Coca-Cola que tu vas prendre aux États-Unis d'Amérique, tu amènes ça au Congo, tu commences à en jouir. La démocratie doit exister partout, mais elle doit se faire en fonction de la culture, en fonction des réalités propres à un pays. Ça, nous l'oublions toujours. Et même le jour de notre indépendance au Congo, le roi Baudouin, dans son discours, qu'est-ce qu'il nous a prodigué comme conseil? Il nous a dit, il faudra adapter vos institutions à vos besoins et à vos conceptions. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1960, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais adapté nos institutions à notre culture. Nous n'avons jamais adapté nos institutions à la particularité de notre tissu social. Jamais. Donc, c'est tous les savants qui vous diront cela. Tous les savants. Alors, quand vous savez que donc, vous n'avez pas encore adapté vos institutions à vos réalités, la deuxième étape, vous cherchez à construire des institutions qui sont adaptées à votre réalité. Voilà donc ce que j'ai fait dans ce livre. Dans un premier temps, j'explore les raisons qui conduisent à l'échec du processus de démocratisation. Et dans un deuxième temps, j'esquisse, et ceci, c'est la première fois qu'un intellectuel africain dessine le contour d'une alternative aux démocraties mimétiques dont les dangers ne sont plus à démontrer en Afrique.
Voilà
donc pourquoi il est très important d'avoir cette démarche rationnelle si nous voulons régler le problème que nous avons, le problème de gouvernance.
Voilà, nous rappelons que les livres « L'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa », c'est le livre de M. Mayoyo Bitumba Tipotipo, qui est l'invité de l'émission « Pensée écrite » de ces mercredis. Mais M. Mayoyo, dans votre livre, vous parlez de la colonisation des cerveaux. Vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez écrit, que le cerveau de l'intellectuel congolais ou africain est toujours colonisé?
Bien sûr que oui. Si nous ne sommes pas capables de construire des démocraties endogènes, c'est que nous restons colonisés jusqu'à présent. C'est cette colonisation des cerveaux que nous avons transmise de génération en génération qui nous handicape à construire des démocraties qui sont respectueuses de notre culture, qui reflètent nos réalités, et qui nous permettrait enfin d'avoir des chefs d'État que nous pouvons contrôler et que nous pouvons sanctionner. Dans le cadre des démocraties mimétiques, il n'y a aucun chef d'État africain, à part dans les rares pays africains qui sont des démocraties telles que l'Afrique du Sud, il n'y a aucun président africain qui peut être bloqué par ce que nous avons sur papier comme contre-pouvoir. Nous avons l'Assemblée nationale comme contre-pouvoir. Nous avons le Sénat comme contre-pouvoir. Nous avons l'appareil judiciaire comme contre-pouvoir. Mais regardez ce que font le président africain. Vous allez vous rendre compte que l'Assemblée nationale est incapable de stopper un président de la République. Le Sénat est incapable de stopper un président de la République. L'appareil judiciaire est incapable de stopper le président de la République. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est mal structuré. Tout simplement parce que nous copions servilement les Occidentaux. Les choses ne se passent pas comme cela en Occident. Mais chez nous, nous ne pouvons arrêter aucun président de la République. C'est impossible. Nous devons travailler sur un système politique qui nous permettrait de le faire. Parce qu'un président de la République, c'est un être humain comme n'importe qui d'autre. Et puis, notre histoire en Afrique nous démontre très bien que le poste de président de la République, c'est le poste qui offre le plus grand potentiel de prédation au sein d'un État. Dans tous les États africains, ça a été comme ça. Sous les dictatures à la Mobutu, c'est comme ça depuis que nous sommes embarqués dans ce genre de démocrature, c'est-à-dire des systèmes politiques qui ont quelque chose en surface, un certain vernis qui vous rappelle les démocraties occidentales, mais dans le fait, il n'y a pas de démocratie du tout. Le président de la République, donc nos États sont condamnés au bon vouloir de nos présidents. Mmh. Si le président veut que le pays avance, eh bien le pays avancera. C'est pour cela que je parle de l'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa. Cela signifie que ce que j'ai dit sur le Congo-Kinshasa s'applique dans la quasi-totalité des pays africains.
Merci, merci bien. On rappelle l'émission est chronométrée. Vu le volume de cet ouvrage, nous allons peut-être prendre une partie. On est en train de survoler pour donner une bonne compréhension à ceux qui nous captent à ce net moment. Monsieur Maheu, qu'est-ce que vous vous proposez en tant qu'auteur dans cet ouvrage? Parce que nous restons dans l'ouvrage. Quelle est la bonne démocratie à utiliser pour l'Afrique ou à mettre en pratique pour Congolais?
La démocratie que nous mettons en place, personne ne nous l'impose, sauf notre mentalité de colonisés, notre mentalité de suiveurs, notre mentalité des gens dont on a nettoyé les cerveaux et qui n'ont aucune confiance en leur propre culture et qui, pour construire des appareils politiques dits démocratiques, donc, sont obligés de regarder ce que les Européens ont fait, sont obligés de regarder ce que les Occidentaux ont fait.
Parce que personne ça a donné des fruits.
Oui. C'est-à-dire depuis. Mais la colonisation des cerveaux, elle continue jusqu'à présent. Je vous ai expliqué que même dans notre système éducatif, rien n'a changé depuis la colonisation. Pas grand-chose n'a changé.
Voilà pourquoi nous posons la question, la sortie maintenant de cette démocratie.
Voilà, la sortie de cette démocratie, il nous suffit de réfléchir un tout petit peu et vous allez comprendre qu'elle est très simple. Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un forme, crée un parti politique en Afrique, le premier adhérent, c'est qui? Ce sont les membres de son ethnie. Ce sont les membres de sa région. Prenez un pays comme le Burundi ou le Rwanda, où vous avez une majorité de Hutus et une minorité de Tutsis. Si vous créez des partis politiques, vous pouvez être certain à 100% qu'il y aura un parti politique qui sera perçu comme un parti de Hutus et un parti politique qui sera perçu comme un parti de Tutsis. Et quand vous allez aux élections pour voir qui doit diriger le pays. En fait, ce ne sont pas les partis politiques qui sont dans la course. Ce sont les ethnies, ce sont les régions qui rentrent dans la course. Alors, pourquoi créer des partis politiques? Pourquoi nous affronter? Pourquoi ne pas créer donc des démocraties qui sont basées sur nos réalités que sont les ethnies, là où il n'y en a pas beaucoup, et les régions, là où il y en a beaucoup? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager cela? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une démocratie qui ne soit pas conflictuelle comme en Occident? La conflictualité ne s'exporte pas en Afrique. D'ailleurs, le mot opposition, vous pouvez aller dans n'importe quelle langue africaine, le mot opposition, vous trouverez quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire l'ennemi en armes. Mais vous ne trouverez pas ça ailleurs. Pourquoi est-ce que donc nous devons créer des démocraties conflictuelles et amener nos ethnies, nos régions à s'affronter? La démocratie ne doit pas être forcément conflictuelle. La démocratie peut être consensuelle. C'est-à-dire, la province du Congo central s'organise, la province du Maniema s'organise, la province du Kwilu s'organise. Maintenant, nous nous rencontrons au sommet de l'État. Toutes les provinces s'organisent et nous nous rencontrons au sommet de l'État avec les élites de toutes ces provinces, avec un processus donc de sélection au niveau de toutes ces provinces-là. Voilà ce que je dis, parce que il y a quelque chose de foncièrement contradictoire à la culture africaine, c'est cette conflictualité que nous importons de l'Europe, de l'Occident. Le président Mobutu avait coutume de dire à ses interlocuteurs occidentaux, circulez dans tous les Zaïre, montrez-moi un seul village où vous avez d'un côté la maison du chef du village et de l'autre la maison du chef de l'opposition. Ça n'existe pas chez nous. Alors, pourquoi voulez-vous importer quelque chose dont nous n'avons pas besoin, qui n'existe pas dans notre culture et qui nous cause énormément de tort? Pourquoi? Nous devons nous poser ces questions-là. Est-ce que nous sommes obligés de faire cela? Qui nous oblige de le faire? Donc, moi, je propose
Monsieur Mayo,
une démocratie. Oui.
Oui, c'est que vous avez justement proposé comme démocratie endogène, une voie africaine de démocratie,
oui,
comme vous l'avez appelée. Il y a entre autres la démocratie consensuelle,
oui,
il y a entre autres
oui,
la démocratie non partisane basée sur l'ethnicité ou la régionalité, voilà. Il y a également la démocratie non partisane,
oui,
et co-sociétale. Ce sont les types de démocratie,
oui,
que vous avez proposé. Peut-être que le temps ne nous permettra pas de tout aborder au courant de cette émission. Mais il y a quelque part où vous avez mis un accent, en particulier sur le tribalisme et les régionalismes. Vous avez proposé aussi le tribalisme comme un modèle de la démocratie endogène pour l'Afrique. Mais vous avez dit que le tribalisme n'est pas à confondre avec le national-tribalisme. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre ces deux mots?
Oui, voilà. Nous devons clairement définir le mot tribalisme. Et je pense que lors de mes recherches, la meilleure définition du tribalisme que j'avais trouvée vient d'un professeur ivoirien appelé Sylla Lansiné. Le professeur Lansiné définit le tribalisme comme suit. Je le cite. C'est un comportement, une attitude positive ou négative qui crée dans un milieu social donné un réseau d'attraction et de répulsion entre les membres de deux ou plusieurs groupes composant ces milieux sociaux. Le membre de chacun de ces groupes se disent liés par le sang, mais ils le sont beaucoup plus par l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes par rapport aux autres. C'est ça le tribalisme. Donc, le tribalisme n'est pas seulement quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif aussi. D'ailleurs, en français, on dit « qui se ressemble, s'assemble ». Donc, il est tout à fait normal, quand nous suivons la voie que nous importons de l'Occident et que quelqu'un crée un parti politique et qu'il émerge au niveau national, il est tout à fait normal que le membre de son ethnie, le membre de sa tribu, le suivre ou le membre de sa région. Parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais maintenant, cela est différent du national-tribalisme. Le national-tribalisme, c'est quoi? C'est le favoritisme tribal qui fait que quand quelqu'un devient président de la République, les membres de son ethnie, les membres de sa région accaparent le poste au sommet de l'État. Et en fin de compte, l'État est pris en otage par un groupuscule d'individus issus d'une même ethnie ou d'une même région. Ces phénomènes-là existent partout au monde. Il a existé dans tous les États européens. Mais les Européens ont su comment l'éradiquer. Nous, jusqu'à présent, nous ne savons pas comment l'éradiquer. Et moi, dans la proposition que j'ai faite, il y a moyen donc d'éradiquer ces fléaux-là de la gouvernance. Je vais vous donner un exemple bête de ce que je vous dis. Prenons le cas de la Belgique. La Belgique faisait partie du royaume des Pays-Bas. Dans ce royaume, il y avait deux grandes ethnies, les Hollandais et les Belges. Les Hollandais étaient des protestants. Ils étaient beaucoup plus riches que les Belges. Ils étaient une minorité. Les Belges étaient une majorité. Ils étaient catholiques. Ils étaient moins riches que les Hollandais. Quelle fut la conséquence dans cet État? Les Hollandais dominaient les Belges. C'est ce que nous vivons dans tous les États africains aujourd'hui. L'ethnie du président de la République domine les autres. Et qu'est-ce que les Belges ont fait? Comme personne n'aime la domination, ils ont fait la révolution. Et quand ils ont fait la révolution, en 1830, ils sont devenus indépendants. Mais quand les Belges deviennent indépendants, ils oublient une chose. C'est que parmi les Belges, il y a aussi des sous-groupes. Il y a le Wallon, il y a le Flamand. Et qu'est-ce qui va arriver? Comme les Belges ne réfléchissent pas très bien au moment où ils deviennent indépendants, ils copient bêtement la constitution de la France voisine. La France, qui est un État qui a réussi la centralisation linguistique et où les particularités ethniques ne sont pas aussi prononcées qu'en Belgique. La conséquence de cette importation, c'est exactement ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui. C'est que les Wallons ont dominé les Flamands pendant 163 ans. Et pour que cesse la domination, qu'est-ce qu'on a fait? On a révisé la Constitution, on a adapté la Constitution au tissu social de la Belgique, c'est-à-dire à la présence de deux grandes ethnies, les Wallons et les Flamands, à la présence de deux grandes régions, puisque les Wallons et les Flamands ont des régions séparées. Donc c'était... On intègre l'élément de la régionalité dans la Constitution pour que cesse la domination des élites d'une ethnie sur les élites d'autres ethnies. Et ça, chez nous, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pourquoi? Parce que le colonisateur nous a dit l'ethnie, c'est quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est contraire à la modernité. Il n'y a rien de plus faux. Jusqu'aujourd'hui, dans plusieurs pays européens, vous avez des ethnies. Vous allez en Suisse. Les Suisses qui parlent l'allemand, les Suisses qui parlent le français, les Suisses qui parlent l'italien, les Suisses qui parlent le romanche sont les quatre ethnies de la Suisse. Vous allez au Royaume-Uni. Les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais, ce sont les ethnies du Royaume-Uni. Vous allez en Espagne. Les Catalans, les Galiciens, les Basques, les Tziganes, les Asturiens, les Aragonais, les Oranais, ce sont les différentes ethnies de l'Espagne. Ces pays-là ont intégré l'ethnicité dans leur constitution pour qu'aucune ethnie ne domine les autres. Et même en Europe, si vous ne faites pas très attention, si vous ne savez pas articuler vos institutions de manière à ce qu'elles intègrent cette dimension-là du tissu social, eh bien, les choses vont mal tourner. Je vous ai déjà donné l'exemple de comment les choses avaient mal tourné dans le royaume des Pays-Bas. Vous savez comment les choses ont mal tourné en Yougoslavie. La Yougoslavie où il y avait plusieurs ethnies, les Serbes, les Croates, les Macédoniens, les Slovènes, les Monténégrins et les musulmans. Vous savez comment est-ce que ça a mal tourné? Vous savez comment est-ce que donc la présence de deux ethnies en Tchécoslovaquie, les Tchèques et les Slovaques, a mal tourné? Maintenant, ils ont deux États. Le problème que nous avons, nous, c'est cela. C'est-à-dire, les colonisateurs arrivent dans nos pays. Ils nous disent, les ethnies sont quelque chose de mauvais. Et puis, dans leur perfidie, qu'est-ce qu'ils font? La même réalité sociale. Chez nous, ils donnent à cette réalité sociale le nom d'ethnie. Mais chez eux, pour montrer qu'ils sont civilisés, ils donnent le nom de nation ou bien de communauté. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la propagande coloniale continue chez nous. Quand un Africain quitte son pays et va s'installer en Europe, on l'appelle comment? On appelle immigré, n'est-ce pas? Mais quand un Européen quitte son pays, vient s'installer en Afrique, on l'appelle expatrié. Vous comprenez la mystification? C'est cette mystification qui fait que nous, on n'arrive pas bien à avoir une bonne relation avec nos ethnies et avec nos régions. Voilà donc ce qu'il fallait retenir là-dessus. Nous avons donc les yeux vraiment obscurcis par la propagande coloniale qui continue jusqu'à présent, comme je viens de vous le dire dans l'exemple donc immigrés, expatriés.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mayuyo. Nous sommes pris par les temps. Je pense que cet ouvrage, l'ajustement politique africain, l'intellectuel africain congolais peut les considérer comme une bouffée d'oxygène pour sortir de tout blocage.
Il faut sortir du blocage. Et puisque dans mon ouvrage, j'ai dessiné le contour d'une démocratie endogène, je vous prie d'organiser une émission rien que sur le contour de cette démocratie endogène que j'ai mise au point. Vous trouverez partout, quand vous faites de la recherche sur le processus de démocratisation en Afrique, pourquoi ça échoue, tout le monde vous dira c'est parce que nous imitons bêtement les Occidentaux. Notre problème n'est pas d'imiter coûte que coûte les Occidentaux. Nous savons d'ailleurs ce que ça nous coûte. Donc, il faut imaginer des alternatives. Ce que nous devons faire, c'est exactement ce que le clergé catholique a fait. On nous a appris comment aller vers Dieu. Le clergé catholique s'est dit, mais non, mais dans notre culture, un enfant ne va pas vers son père de cette façon-là. Ça, c'est la façon des Européens. Nous, nous devons créer notre façon d'aller vers le père. On a inventé le rite zaïrois. Et je suis étonné que nous, qui avons inventé la philosophie politique de recours à l'authenticité, nous qui avons inventé le rite zaïrois de la messe, nous qui avons créé la musique congolaise moderne, qui au départ était une musique de popo qui était venue de l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous lisez le livre de Manda Tchebwa sur Terre de la chanson, intitulé Terre de la chanson, vous verrez que la musique congolaise moderne a pris son envol quand nous avions commencé à puiser dans le patrimoine culturel du pays. C'est en ce moment-là que ça a pris son envol. Et aujourd'hui, dans le rendez-vous du donner et du recevoir au niveau planétaire, nous, nous avons inscrit la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, nous pouvons faire exactement la même révolution en ce qui concerne la démocratie. Nous ne sommes pas obligés de suivre ce que les Occidentaux ont fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais vraiment, faites tout pour qu'on ait toute une émission sur le modèle que moi j'ai conçu. Vous allez voir que donc ce modèle-là va nous permettre de construire un grand pays.
Très bien. Là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Nous allons nous organiser pour proposer aux auditeurs une émission spéciale seulement avec les sortes de démocraties que vous avez proposées, consensuelles et ainsi de suite. Nous vous disons merci beaucoup voilà. Parce que la radio, c'est les temps. On a été richement informés, richement compris de la situation que traverse notre pays, les blocages et où. Voilà, M. Mayou est la clé, si on peut dire comme ça, de quelques points à travers ces livres, l'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa. À vous, nous vous disons merci. Nous disons également merci à Joël Diawa, qui est du journal télévisé des droits humains. Nous rappelons que cette émission sera aussi proposée par nos confrères de la radio catholique Elikia. Cette émission sera diffusée aussi de l'autre côté. Monsieur Mayoyo, nous vous disons merci. Joël Diawa, merci à vous.
Merci, très cher Bob.
C'est à moi de vous remercier, Bob. C'est à moi de vous remercier, Joël.
Merci beaucoup à nos auditeurs. On fixe rendez-vous très prochainement.
Pensée écrite.
Pensée écrite.
Vous désirez améliorer votre connaissance,
découvrir la vie et les cultures des autres.
Suivez l'émission Pensée écrite.
Pensée écrite.
Chaque page qui vous entoure renforce les tissus des connaissances dans votre esprit
et vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure.
Pensée écrite.
À suivre sur Radio Maria.
Fréquence 89.9.
Animateur
Bob Kilongo.